Parole de citoyen, Radio Citoyenne est un projet mené au cœur des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Il vise à créer et rendre compte des événements dans des lieux phares des quartiers avec la participation d'acteurs locaux, représentants d'institutions et des habitants. En résulte des moments de présentation de projets, des discussions et des échanges enregistrés et diffusés ensuite sur les ondes des radios associatives Loire Sud, Radio Ondaine et Radio Dio. Mardi 7 et mercredi 8 novembre se tenaient à la Comète à Saint-Étienne les premières assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole. Avec le soutien de la préfecture de la Loire et l'accompagnement de Kaleidoscope, ces assises avaient pour objectif de réunir les acteurs de la politique de la ville, institutions, associations, bailleurs sociaux et les habitants des quartiers prioritaires du territoire pour définir, après une série de rencontres et ateliers, les idées principales pour abonder à l'écriture du prochain contrat de ville pour la période 2024-2030. Nous vous proposons aujourd'hui un reportage et pour débuter, nous avons interrogé les participants sur leur définition de la politique de la ville et du contrat de ville.
C'est un moyen de répondre aux besoins des habitants.
La définition, c'est aider les associations justement pour la population précaire.
Pour moi, c'est l'objectif sur des quartiers de pouvoir mettre des moyens supplémentaires pour rattraper la moyenne, on va dire.
Comment on définit la politique de la ville? C'est une politique d'équité territoriale pour des territoires qui sont repérés comme étant plus pauvres et pour essayer de masquer les effets de la pauvreté et ramener ces territoires au même niveau que les territoires avoisinants.
Contrat de ville, je pense que c'est un support pour les quartiers plus vulnérables et plus en difficulté, qui a été créé vraiment pour les soutenir les personnes plus vulnérables.
Des quartiers qu'on a pour moi un peu délaissés, etc., et qu'on essaye maintenant de revaloriser, de leur redonner accès à des droits qu'ils n'avaient pas avant, etc.
Pour moi, comment on le définit, c'est les différentes actions qui sont menées en faveur de la population dans le cadre de la politique de la ville. Et c'est comment ces actions elles peuvent être répercutées au niveau des différents partenaires, la mission locale, des centres sociaux, des CCAS. Voilà.
Pour moi, personnellement, le contrat de ville, c'est réunir tout le monde pour le bien-être et le vivre ensemble, toucher plus d'habitants, les sortir de l'isolement et la coéducation.
Alors, contrat de ville, c'est l'organisation pendant les 5 années qui vont arriver de tout ce qui va être décidé pour les quartiers prioritaires, entre autres. Donc on va faire un accompagnement là-dessus, voilà, on va travailler là-dessus.
La politique de la ville soutient et s'appuie aussi sur des actions menées au sein des quartiers prioritaires. Mais quel serait le projet idéal?
Pour moi, ça va être un projet qui va englober tout le monde, sans discrimination envers qui que ce soit. C'est vraiment que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec ce projet.
Je pense que déjà, il faut se réunir avec les parents et les enfants, et les représentants de la politique de la ville, et beaucoup d'écoute. Parce que l'info, si on ne s'écoute pas, si on ne réalise pas ensemble les projets, l'argent, ça ne se fait pas.
Mettre en avant les associations, prendre pour accompagner ces projets.
Qui fait partie un petit peu de toute la citoyenneté, et avec les habitants, justement. Avec le support des personnes encadrées, la préfecture, l'État, la ville, un petit peu tout le monde.
La composante prioritaire, ce serait les habitants qui participeraient activement à un projet. Et réunir, rassembler, échanger, partager tout ça et avec tous les acteurs qui peuvent œuvrer sur un territoire. Donc ça peut être les habitants, ça peut être les partenaires, ça peut être les institutions, ça peut être plein de choses.
Le projet idéal, ça serait que tout le monde puisse y participer, tous les partenaires qui sont intéressés par un projet spécifique, et que ça se fasse en toute confiance et en toute transparence avec les financeurs. Voilà, c'est que ce soit que l'ensemble soit aille dans le même sens.
Un projet idéal sera un projet qui part des habitants déjà, premièrement, et qui agrège aussi toutes les bonnes volontés du territoire, voilà, des acteurs en grand nombre, et qui améliore la qualité de vie, quoi, qui a un impact sur la vie des premiers concernés, c'est-à-dire les habitants du quartier.
Eh ben, ça serait un projet qui ferait consensus entre les besoins des habitants, les moyens dont on dispose et les objectifs à la fois politiques et institutionnels.
Le bien vivre ensemble, des projets communs, rompre l'isolement, faire plus de mutualisation entre les associations et entre les partenaires et travailler main dans la main pour le bien-être des habitants.
Tous ici participent à un projet commun et collectif. Qu'attendez-vous au sortir de ces assises de la politique de la ville ?
Personnellement, ce que j'espère, c'est qu'on soit, comme je viens de dire, être écouté, se réunir, si c'est possible, un peu plus comme avant, parce que moi, c'est depuis longtemps, je suis avec la politique de la ville, et on construit les projets ensemble.
J'attends une préparation d'un projet, un objectif pour savoir nous devons aller où, et important pour faire ensemble, vraiment pour créer un programme, un projet où nous pouvons créer quelque chose et changer pour les personnes qui ont besoin.
Moi, toujours de ma fenêtre, une plus grande participation des conseils citoyens dans le cadre de la politique de la ville.
Bah, j'attends de voir les différentes actions qui existent au sein de la métropole, de rencontrer des partenaires et de réfléchir avec des intervenants et des thématiques diverses.
Plus de concertation, plus de consultation des associations et des partenaires des habitants.
Une orientation avec des objectifs clairs qui nous permettent de pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Donc je viens plus aujourd'hui pour voir au niveau des élus, des gens qui peuvent nous aider pour apporter vraiment une aide, quoi. Et j'espère qu'ils seront là pour nous.
Je pense que l'objectif, c'est de mettre en valeur ce qui a été fait, de montrer quand même à quoi sert la politique de la ville et d'être quand même un temps de parole accordé un peu à tout le monde, justement, que ce soit les acteurs associatifs, les habitants, les institutions.
Ce qu'on attend de ces assises, c'est de pouvoir écrire le contrat de ville pour les 7 ans à venir. Voilà, c'est que ça nous donne suffisamment de matière pour avoir un contrat de ville qui soit intéressant et voilà, qu'on puisse prendre un maximum d'idées, quoi.
Le contrat de ville suppose une concertation et une coordination entre les composantes d'un quartier, habitants et forces vives, les institutions et l'État. Nous avons rencontré pour ce dernier Hugo Le Floch, sous-préfet en charge de la politique de la ville dans la Loire.
Alors la politique de la ville, c'est tous les dispositifs qui vont être vraiment spécifiques à des quartiers politiques de la ville. Donc des quartiers prioritaires où on estime qu'il y a des difficultés qui vont au-delà des difficultés qu'il y a dans les quartiers de droit commun, que sur des questions d'emploi, sur des questions de sécurité et maintenant aussi de plus en plus sur des questions de transition énergétique, on se rend compte qu'il y a des difficultés supplémentaires qui nécessitent d'avoir des moyens supplémentaires. Alors un quartier prioritaire, donc c'est défini par la loi LAMI, donc c'est un quartier qui a plus de 1000 habitants et dont la population a un niveau de revenu qui est inférieur à un certain seuil. Donc on voit bien, c'est un quartier dans lequel il va y avoir une concentration de personnes qui sont plus pauvres que la moyenne et donc cette concentration va entraîner des difficultés spécifiques.
Alors le contrat de ville est défini sur plusieurs années, on rentre dans une nouvelle période 2024-2030 où de nouvelles dispositions vont être prises. Quelles sont les grandes directions qui sont réfléchies en ce moment ?
Alors sur les grandes directions, la première c'est vraiment en termes de méthode, c'est de partir des besoins des citoyens qui sont exprimés à l'échelle de chaque quartier. Donc on a lancé une grande série de concertations pour l'ensemble de la France, à la fois sur une plateforme internet, mais aussi évidemment en physique dans chaque quartier. Donc on part de ces besoins pour ensuite construire chaque contrat. Ça, c'est sur la méthode. Ensuite, sur le fond, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'ensemble des thématiques et des outils possibles, notamment notamment à la fois donc sur des financements qui viendraient pour aider des associations, aider les centres sociaux, mais aussi sur les grands investissements qui doivent être faits. Et l'idée, enfin, c'est d'essayer d'articuler ces contrats avec tous les autres documents stratégiques qui existent entre l'État et les collectivités territoriales pour pas qu'il y ait d'une part ce qu'il y a dans les quartiers de droit commun et d'autre part les quartiers politiques de la ville, mais qu'on essaie vraiment d'avoir une politique globale.
Alors, c'est quasi 40 ans de politique de la ville, si l'on reprend l'historique. Pourquoi faut-il toujours et encore insister sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les nouveaux outils que l'on peut avoir?
Alors, c'est une question qui est sacrément difficile. Ce qui a marché, c'est notamment toute la requalification urbaine. Donc on a beaucoup travaillé sur le bâti avec des investissements qui ont été colossaux de la part de l'État et des collectivités territoriales pour essayer, par exemple, c'est toutes ces opérations de destruction des grandes tours et essayer d'avoir des habitats plus bas, d'avoir plus d'espaces verts. Donc ça a été vraiment un grand succès. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un travail qui doit également être fait sur tout le volet social, la concertation citoyenne, essayer de faire vivre en fait ces quartiers. Par ailleurs, il y a un enjeu sur la sécurité. On le voit, ça ressort vraiment des concertations. Il y a un besoin de la part des habitants de vivre en sécurité et de manière tranquille, sans bruit intempestif, sans danger. Et donc là, il y a également un enjeu important pour la politique de la ville. Le dernier, c'est un enjeu qui n'existait pas il y a 40 ans, ou en tout cas on le prenait moins en compte, c'est celui de l'environnement, de la transition énergétique, et c'est l'idée de que vivre dans des passoires thermiques, de payer autant en facture d'électricité ou de gaz, c'est pas possible, et donc il faut rénover également à ce titre ces immeubles-là.
Ce sont les assises, les premières assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole. L'État est donc présent, naturellement. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Quel est le regard de la préfecture sur un événement tel que celui-ci?
On est premièrement très heureux de l'organiser avec la métropole de Saint-Étienne. Ça illustre déjà le fait qu'il y ait ces deux logos sur l'invitation, les bons rapports qui existent entre les deux institutions. Et ça, c'est absolument essentiel. La politique de la ville, c'est une politique de l'État, mais évidemment, sans les collectivités territoriales, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que tous ces échanges, ils vont pour nous être la matière pour la rédaction du contrat. Donc on a vraiment absolument besoin d'avoir ce retour des citoyens et le fait de, et des acteurs professionnels de la politique de la ville. Le fait d'organiser avec ces ateliers pendant 48 heures, ça va faire surgir des idées, des retours. Donc ça, c'est extrêmement positif. Le troisième point, c'est que il est utile d'avoir ce moment un peu de recul, ce moment de stop, où on est toujours dans l'action. Il y a quelque chose d'assez chronophage en énergie aussi, de toujours être sur ses projets en lien avec la difficulté des gens, et que tous les acteurs de la politique de la ville puissent se retrouver pour faire une pause et réfléchir ensemble, c'est également très positif.
Historiquement, la mise en place d'actions considérées comme politiques de la ville date de la fin des années 70. Valérie Salapala, chercheuse à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, nous l'explique.
Alors, la politique de la ville a débuté il y a 46 ans. Ça commence à la fin des années 70 avec un programme qu'on appelle HVS, Habitat et Vie Sociale. Donc on va commencer à développer des actions sociales dans les quartiers d'habitat social périphérique qui ont changé, des quartiers qui ont émergé. La grande période de construction des logements sociaux, c'est les années 50, 60. Et puis dès les années 70, ces quartiers se mettent à changer. On décèle un certain nombre de problèmes. Leur peuplement change, plus de pauvreté, parfois aussi un bâti qui se dégrade, des problèmes d'équilibre de peuplement, de mixité sociale qui commencent à se perdre. On commence à thématiser la question de la mixité sociale. Donc ça démarre comme ça. Et à partir de 1977, on va avoir une succession de programmes et un certain nombre de métamorphoses de la politique de la ville. Là, je reprends l'expression de Renaud Epstein et Thomas Kirschbaum, donc deux sociologues spécialistes du sujet, puisque on a une seule politique de la ville, mais en fait qui prend des visages assez différents d'une période à l'autre depuis 1977. À savoir que, bon, par exemple, dans les années 80, on a plutôt une approche endogène des quartiers. On appréhende les quartiers populaires comme des quartiers qui ont des ressources. Leurs habitants sont considérés comme des acteurs sur lesquels on va s'appuyer pour développer ces quartiers. Et puis, à partir des années 90, progressivement, ça change. On va avoir des approches plus descendantes de la politique de la ville qui tendent à voir de plus en plus les quartiers populaires comme des quartiers à handicap. Des quartiers qui manquent de quelque chose, des quartiers pauvres, voire des quartiers qui menacent la République. Là, c'est plutôt la thématique qui va émerger dans les années 2000. Voilà. Et puis, à partir de 2003, on a un nouveau tournant avec la mise en place de la politique de rénovation urbaine, le plan Borloo de 2003, qui va vraiment se centrer sur la question de la démolition reconstruction du logement social. Et là, on a une approche par la promotion de la mixité sociale à travers la démolition. Et les dimensions plus sociales de la politique de la ville tendent à s'effacer un petit peu derrière cette centralité de la politique de rénovation urbaine. Et enfin, depuis une dizaine d'années, la question qui vient, c'est est-ce qu'on n'a pas une sorte d'effacement de la politique de la ville, de l'agenda politique et gouvernemental ? Parce que la question des inégalités territoriales est toujours présente à l'agenda, mais elle s'est déplacée. Elle s'est en partie déplacée vers la question de la supposée France périphérique. Et là, on voit qu'on a affaire à une nouvelle mise en concurrence finalement de deux problématiques, de deux types de territoires. D'un côté, les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ces quartiers pauvres des grandes métropoles principalement, même s'il y en a aussi ailleurs que dans les grandes métropoles. Et puis de l'autre, donc, cette supposée France périphérique, qui est plutôt la France périurbaine, celle des villes petites et moyennes. Donc on a eu ce déplacement à partir en gros du milieu des années 2010, et c'est un déplacement qui est assez problématique pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est que derrière cette opposition territoriale, en fait, on voit que se joue une opposition qui est ethno-raciale, avec l'idée que, en gros, les classes populaires racisées comme minoritaires bénéficient de tout un tas de dispositifs, dont la politique de la ville, ces classes populaires racisées qui vivent dans les quartiers populaires, dans les cités. Et puis de l'autre côté, on aurait une France périphérique, donc ces classes populaires plutôt blanches, qui seraient délaissées, qui seraient abandonnées par les pouvoirs publics. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre qu'il y a un certain effacement de la politique de la ville. En gros, pour aller vite, c'est pas très porteur, politiquement, électoralement aujourd'hui, d'annoncer qu'on fait tout un tas de choses, dans le cadre de la politique de la ville, pour les quartiers prioritaires.
Alors, on est quand même à la veille d'un nouveau contrat de ville. C'est des périodes de 6 ans, 2024-2030, où ici, la volonté est d'être au plus près des préoccupations des territoires et de l'implication également des composantes de ces territoires, mais plus des habitants que des institutions ou des associations. Comment on se retrouve là-dedans? Et vous, les études que vous avez pu faire là-dessus, comment se placent les habitants dans leur quartier et dans ce grand mot, ce grand thème qu'est la politique de la ville?
C'est compliqué. Alors, d'un côté, la politique de la ville construit une sorte d'injonction à la participation des habitants. Depuis le début, il y a cette idée qu'elle est fondée en partie sur la participation des habitants, mais cette participation, elle est assez ambiguë, en fait. La notion même de participation dans la politique de la ville, elle est assez ambiguë. Pour les acteurs institutionnels, elle est souvent pensée de façon assez descendante. On va mettre en place des dispositifs participatifs, conseil de quartier, conseil citoyen, etc., et qu'on va contrôler d'une certaine façon. Et on va attendre que les habitants y participent. Et à côté de ça, sans que les habitants forcément aient dans l'idée de participer à travers ça à la politique de la ville, il y a plein de mobilisations dans les quartiers politiques de la ville. Il y a des associations locales, il y a des collectifs d'habitants, etc., qui se mobilisent sur les sujets par lesquels ils se sentent concernés. Et en fait, pour moi, la question, c'est comment se fait la rencontre, en fait. Que veulent faire les institutions de ces mobilisations qui existent dans les quartiers, dans ce potentiel de mobilisation? Est-ce qu'on est prêt finalement à changer de paradigme aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce qu'on reste dans cette vision descendante de la participation, ou bien est-ce qu'on est prêt à changer de paradigme et à être davantage dans le soutien, l'accompagnement à des formes d'auto-organisation dans les quartiers? Et donc là, il s'agirait davantage de soutenir toutes ces initiatives qui existent déjà dans les quartiers ou que les habitants ont envie d'y développer. ça suppose, pour les acteurs institutionnels, d'accepter de perdre un peu de pouvoir. Là, il y a un vrai enjeu de déplacement du pouvoir. Et donc la question, pour les années qui viennent, c'est peut-être notamment celle-là. Est-ce que les acteurs institutionnels, est-ce que les élus locaux, par exemple, sont prêts à ne pas complètement contrôler ce qui se passe dans le cadre de la politique de la ville ?
Alors, si l'on revient à ces assises-là de la politique de la ville, de Saint-Étienne Métropole, vous étiez donc dans une table ronde d'ouverture, une discussion d'ouverture avec un responsable d'un centre social, avec une élue, avec également un technicien d'une ville, mais aussi un représentant des conseils citoyens et la police nationale, et aussi une représentante des bailleurs sociaux. Ensemble, ici, est-ce que dans les quartiers, toutes ces personnes-là sont ensemble ? Ou à côté ?
C'est difficile de répondre parce que dans les quartiers, en fait, une des spécificités de la politique de la ville, c'est qu'elle se décline justement à l'échelle du quartier. Or, quelque part, il n'y a pas deux quartiers pareils, donc il faudrait finalement, pour répondre à votre question, aller voir dans chacun des quartiers comment est-ce que les choses se configurent et comment est-ce que les partenariats se configurent. Parce que le principe de l'approche partenariale, transversale, etc. C'est un principe qui est affiché par la politique de la ville, mais bien sûr, en fonction des contextes locaux, on peut observer des choses qui répondent plus ou moins à ce principe-là. Donc, c'est difficile de vous répondre. En tout cas, moi, ce que je trouve peut-être intéressant à souligner et important, c'est qu'il me semble qu'il y a des demandes, pour le coup, et des mobilisations d'habitants qui ne sont pas toujours prises en charge, qui ne sont pas toujours entendues. Et en l'occurrence, la question des violences policières, des discriminations ethno-raciales, notamment des discriminations en matière de police et de justice, ça fait partie des questions qui sont très présentes et qui ont été mises en... Il y a tout un tas de travaux sociologiques, mais aussi de rapports plus institutionnels qui ont montré à quel point cette expérience du racisme et des discriminations dans le domaine de la police et de la justice, elle était centrale dans l'expérience que font les habitants des quartiers populaires, notamment les jeunes hommes racisés comme minoritaires dans les quartiers populaires. Et ben cette question, par exemple, je trouve qu'elle est trop peu prise en charge aujourd'hui par la politique de la ville, y compris dans les débats qu'on a aujourd'hui, quelques mois donc après la mort de Nahel Merzouk et les révoltes urbaines qui ont suivi, mais aussi après des années de mobilisation née dans les quartiers populaires autour de cette question du racisme et des discriminations policières. Tout ça pour dire que, en tout cas, il me semble qu'il y a des problématiques qui sont des problématiques centrales pour les habitants des quartiers populaires et dont la politique de la ville, les acteurs de la politique de la ville peinent encore aujourd'hui à se saisir suffisamment.
L'orientation est existante, traversant pas traversant, tu le refais pas.
Je crois qu'on est captif de son logement. Quand on a trois enfants ou qu'on est là depuis 20 ans, on n'a pas forcément envie de sortir, même d'aller déménager, nous, il y a moyen.
Parce que... Je pense que sur tout ce qui est rénovation, la difficulté, ça va être plutôt aussi tout ce qui est copropriété, grosse copropriété privée, parce qu'effectivement, un bailleur social, je pense que c'est plus simple d'agir que quand on a une multitude de...
Effectivement, avec les bailleurs, il y a des leviers, il y a des aides...
Ces assises de la politique de la ville réunissaient les acteurs des quartiers prioritaires de Saint-Étienne Métropole. Une volonté d'échange et de concertation pour élaborer un projet cohérent sur le territoire voulu par la métropole. C'est Siam Labiche, vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, qui nous parle de ce rendez-vous.
Pourquoi organiser un événement tel que celui-ci ? Parce qu'il est extrêmement important pour nous, et c'est notre politique depuis maintenant un certain nombre d'années, de donner d'abord la parole aux habitants, aux principaux concernés pour pouvoir améliorer la qualité de vie sur ces territoires. Il n'y a rien de mieux que les habitants, les opérateurs, les acteurs de l'éducation populaire, les entreprises ou les enseignants pour pouvoir nous dire concrètement ce qu'il faudrait améliorer au sein de ces territoires. Nous appuyer également sur les réussites depuis un certain nombre d'années, les projets qui ont été tentés sur ces territoires pour pouvoir les renforcer. Mais aussi nous appuyer sur les échecs de ce que nous avons pu mettre en place depuis quelques années sur ces territoires et nous dire de ces échecs qu'est-ce que l'on peut finalement construire pour améliorer la situation en matière d'éducation, en matière de cadre de vie, en matière de transition écologique, en matière de sécurité, de tranquillité publique. Donc tout ceci, on le fait en concertation, en collaboration avec les professionnels et les habitants de ces quartiers qui sont les mieux à même de co-construire ce plan d'action.
Alors, on parle de quelque chose qui va arriver demain, c'est le nouveau contrat de ville, c'est pour ces dates 2024-2030, avec une réflexion à l'échelle nationale, mais une modification dans sa façon de faire. Cette fois-ci, on va essayer de s'approcher au plus près des interrogations des habitants, de la participation. C'est ce qui a été un peu débattu aujourd'hui dans cette première table ronde, la participation des habitants. Comment vous l'entendez, vous? Quelle est votre explication de ce terme-là?
Alors, vous vous en êtes bien rendu compte pendant cette table ronde. La question qui est revenue souvent, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui nous faisons pour faire participer un maximum d'habitants sur la construction justement d'une feuille de route commune. Et on se rend bien compte tenu des prises de parole des uns et des autres, des différents acteurs, qu'il n'y a pas de recette magique et qu'il est aujourd'hui de plus en plus compliqué de pouvoir faire participer la population. Moi, je crois beaucoup en une chose, c'est l'aller vers. C'est-à-dire de sortir des murs pour aller chercher les habitants là où ils se trouvent, à l'heure où de plus en plus d'habitants, de citoyens, de concitoyens se renferment sur eux-mêmes, restent à la maison ou bien s'enferment sur leur téléphone et dans les réseaux sociaux. Donc moi je crois beaucoup en l'aller vers, aller chercher les habitants là où ils se trouvent. Ils se trouvent à la sortie des écoles. Moi je crois beaucoup au fait d'aller sonder les parents pendant qu'ils attendent la sortie scolaire, d'aller sonder les enseignants eux-mêmes en prenant un temps pour pouvoir discuter et échanger avec eux, d'aller sonder les habitants lorsqu'ils se trouvent dans des associations ou dans des centres sociaux pour pouvoir recueillir et cueillir leurs paroles et pour construire. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette miracle, mais il est certain que si on attend que les personnes viennent à nous, eh bien on peut attendre aujourd'hui encore bien longtemps, alors qu'il y a 40-50 ans, l'expression démocratique se faisait de façon plus aisée, de façon plus facile. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas. Donc je crois beaucoup à l'aller vers et d'aller sur le terrain pour aller chercher et recueillir la parole des habitants.
Alors, si l'on revient dans cet événement, que sont ces assises de la politique de la ville, quels sont les objectifs pensés à la base de l'organisation d'un événement tel que celui-ci? Et puis, qu'est-ce que l'on va faire, en fait, de toutes ces discussions durant ces deux jours?
Alors, l'un des premiers objectifs de ces assises, c'est d'abord de mobiliser une pluralité d'acteurs pour porter un regard sur les grands enjeux et les priorités d'action du prochain contrat de ville métropolitain, donc l'ambition quartier 2030, qu'on a nommé ambition quartier 2030 pour 2024. Et 2030. Le deuxième objectif de ces assises aussi, c'est extrêmement important, c'est de valoriser tout ce qui s'est fait depuis ces nombreuses années, d'encourager et de féliciter quand même cette participation, cette mobilisation très active de la part des habitants, des conseils citoyens, des bénévoles, des acteurs de l'éducation populaire, des entreprises de la prévention spécialisée. Parce que si on veut qu'elles continuent aussi à s'impliquer, il faut leur donner des moyens humains, des moyens financiers, mais aussi, ça j'y crois davantage que les moyens que nous devons allouer, il faut aussi reconnaître, valoriser et considérer leur travail. Et de par ces assises, avec l'exposition d'une vingtaine de vidéos, l'exposition d'une vingtaine de projets, c'est plus d'une centaine de contributions qui nous ont été transmises et on ne peut pas malheureusement toutes les afficher, eh bien on souhaite valoriser ces initiatives-là, encourager également l'innovation sociale si on veut aussi que les choses changent, que les choses bougent. Et le troisième objectif, de par les ateliers là que nous avons mis en place, c'est d'avoir un plan d'action qui se veut à la fois plus ambitieux, plus audacieux, plus innovant également que la précédente mouture, en nous appuyant encore une fois sur leur expertise, sur leur expérience, sur la parole des habitants et des professionnels, pour faire en sorte, encore une fois, c'est pas des 20 mots, pour faire en sorte qu'on arrive quand même à sortir ces quartiers des difficultés dans lesquelles elles s'inscrivent, de lutter contre cette précarité, contre cette pauvreté qui fait qu'on peut se retrouver avec des publics qui se replient de façon identitaire ou de façon sociale et économique sur elles-mêmes. Et c'est ce dont, à quoi nous devons nous attaquer pour pouvoir construire une société bien plus juste et plus inclusive.
Si l'on se réfère un peu à la conférence de ce matin, c'est aussi une histoire, 46 ans de politique de la ville, si l'on revient dans le passé. Mais c'est aussi une des relations entre les institutions, entre l'État, les institutions locales, les associations, les habitants. Alors, qu'est-ce que l'on fait de tout ça? Après, le fait de se fixer des objectifs à l'échelle de la métropole, est-ce que l'on imagine être un territoire expérimental pour ensuite, pourquoi pas, donner des exemples?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, le secrétaire général indiquait que nous étions la troisième métropole en France à avoir le plus contribué sur la plateforme qui donne la parole aux citoyens dans le cadre de la nouvelle réécriture là, du contrat de ville. Donc c'est déjà une bonne nouvelle et ça démontre l'implication, la mobilisation de nos publics sur la métropole. Effectivement, nous souhaitons être exemplaires et pouvoir peut-être dupliquer ce modèle à l'échelle nationale, mais au-delà du modèle, peut-être être exemplaires d'abord sur ce que nous allons pouvoir proposer en termes d'actions concrètes à destination des habitants.
Ce sont les premières assises de la politique de la ville. On imagine qu'il y aura une suite. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est fixé ? Est-ce que c'est quelque chose qui reviendra annuellement ? Ce rendez-vous-là va-t-il se multiplier ?
Écoutez, on a expérimenté. Sincèrement, moi, je suis agréablement surprise déjà par les premières conclusions de ces assises. Hein. On n'en est qu'à la première matinée, mais de la participation qui est extrêmement forte au sein de la Comet et également du contenu des échanges extrêmement riches, il est certain que ça ne sera pas les premières assises de la politique de la ville. Il est certain qu'on réitérera cet exercice et il est certain, et on l'a vu, que les acteurs ont besoin aussi de se rencontrer, de s'exprimer et de montrer à voir ce qu'elles font. Vous dites quelque chose de très juste, il est extrêmement important de pouvoir nouer des liens, de tisser des liens entre l'institution, les acteurs, les habitants, les bailleurs également, les entreprises, pour créer de la confiance, pour derrière ensuite créer de l'espoir pour nos quartiers et nos territoires. Donc ça ne sera certainement pas la dernière édition. C'est une première édition qui, dans ses premières heures, sont extrêmement encourageants. Et je ne doute pas que dans les années à venir, on puisse réitérer cet exercice sans forcément attendre 2030. Je crois qu'on pourra faire des points d'étape sur les années, les mois et les années à venir pour, encore une fois, et c'est extrêmement important, valoriser et considérer toute cette matière grise, cette intelligence qu'on a sur nos territoires.
Les assises de la politique de la ville ont investi la Comet à Saint-Étienne, dans le quartier de Tarentaise-Beaubrun, entre réunions plénières, ateliers et présentations de projets, comme celui des parents ambassadeurs menés sur ce quartier même. Ce projet vise à faciliter la rencontre et les échanges entre les parents et l'école. Karima et Amel nous présentent ce projet des parents ambassadeurs.
C'est un projet de la cité éducative, c'est pour ramener plus de parents vers l'école.
On a constaté qu'au niveau des quartiers Tarentaise-Beaubrun, il y avait beaucoup de parents qui étaient un petit peu isolés et qui avaient du mal à faire le lien, se rapprocher de l'école, qui avaient peur, par exemple, de demander à un instituteur par rapport à une difficulté, par rapport à l'élève. C'est pour ça qu'est né le projet Maman Ambassadrice. Donc, avec ce projet Maman Ambassadrice, on met en place diverses actions, comme le Café des parents, qui a lieu une fois par mois, où on rassemble les parents des quartiers, au niveau des écoles Tarentaise-Beaubrun, des cours sur les ailes, Paillon et Tarentaise, où il y a des parents qui viennent à ce café. Au début, il y en avait 3, après ça a augmenté, il y en a 18. On discute sur les difficultés sur l'école, surtout on amène les parents vers les différentes associations, les modes de garde, par exemple l'Amicale Laïque de Beaubrun, centre social. On explique aussi aux parents qu'est-ce qui existe sur le quartier comme activité pour les enfants, un petit peu aussi on les amène à des projets qui sont gratuits, parce que c'est vrai que sur le quartier il y a plus ou moins des gens qui sont dans la précarité, alors on essaye de chercher des activités qui sont gratuites, voilà.
Alors comment vous en parlez autour de vous de ce projet-là, en tant que maman ambassadrice? Comment vous allez à la rencontre de vos voisins, des parents, des enfants qui sont dans les mêmes écoles que les vôtres?
La première fois, c'était une journée co-éducation. C'était une invitation parents, enseignants, directeurs des écoles. Et c'était là qu'on a senti plus ce besoin des parents d'aller vers l'école beaucoup plus et pour aider les enfants à se réussir mieux. Et après aussi, on a fait ici à la Comet un accueil parents. Et là, c'était le matin. Les parents, ils étaient invités pour regarder un spectacle ici, à la Comète. Et là, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu qu'on est là. Ils nous ont questionné qu'est-ce qu'on fait là. Et là, on a expliqué, voilà, on n'est pas ambassadeur. On fait bouger un petit peu les choses. Et là, les parents, elles viennent vers nous. Lorsqu'elles nous croisent vers l'école pour demander de l'aide, comment aller parler avec un enseignant, comment trouver des petites solutions ensemble, aider ces parents-là à améliorer plus leur quotidien par rapport à école, enfants, et enseignants et parents.
Alors, l'école aussi s'investit en vous ouvrant les portes des écoles pour vos réunions. Le projet va évoluer avec des rencontres plus régulières avec les directeurs et directrices de ces écoles, les instituteurs et institutrices. Alors, comment vous voyez l'avenir ?
L'avenir, ça serait bien que le café des parents soit maintenu, en fait, au niveau des quartiers, qu'on crée plus de liens entre parents et enseignants. Ça reste encore un petit peu difficile, mais c'est que le début de la première étape. Après, peut-être essayer de trouver plus d'actions, analyser, négocier et identifier les besoins en allant sur le terrain vers les habitants.
Alors, vous êtes accompagné aussi, hein, parce que il y a également des gens de la ville de Saint-Étienne qui vous accompagnent. Comment se passe cet accompagnement-là et qui vous accompagne ?
C'est Florence Léotard qui a fait ce projet, qui a créé ce projet. Et au bout d'un moment, on a créé un très bon lien. Donc, on est devenus presque amis. Et on avance ensemble. Il y a aussi Isabelle de l'ATD Clermont. Donc, elle vient aussi avec nous pour nous orienter. Et il y a beaucoup des ateliers aussi qu'on a fait avec des psychothérapeutes et tout ça. Et des ateliers comme d'abord confiance en soi. Et après, et ces ateliers-là, ils ont donné courage d'aller vers les parents et d'avancer. Et notre but, c'est mieux réussir à l'école.
Oui, de favoriser la culture aussi, d'apporter les enfants des quartiers défavorisés vers la culture. Par exemple, la culture comme par exemple la Comète, la création de spectacles, la culture comme à la médiathèque, favoriser la lecture des livres avec l'organisation des ateliers par enfants, mais ça existe notamment sur le centre social du Babé, par exemple, sur la pause de la cantine. Je sais que moi, mes enfants, ils vont au centre social du Babé, ils font de l'art artistique, ils font des dessins. Aussi, mettre en place, par exemple, comme le Café des Parents, mettre en place derrière le Café des Parents un atelier. Pas imposer le café des parents, mettre un atelier sur l'alimentation, créer des choses, emmener des intervenants sur, par exemple, notamment sur les écrans. On sait que maintenant, les écrans, ils ont envahi notre maison, même les enfants, mais faire diminuer les écrans pour que les enfants puissent réussir, les emmener vers les réussites, vers l'école. C'est ce qu'on souhaite.
Et aussi, je voulais ajouter aussi, et par exemple, moi, je fais partie d'une association Vélo en quartier, qui est sur le quartier ici, Beaubrun-Tarentaise. Et donc, presque les mamans, on a aussi incité les mamans à faire du vélo et de faire des balades entre maman et enfant. Et c'est toujours le lien entre parents, enfants, comme on dit, et enseignants, et que l'enfant ne se sent pas seul, qu'il y a plusieurs personnes derrière lui pour qu'il avance mieux.
Pour préparer au mieux ces deux journées de rencontres, Saint-Étienne Métropole et l'État ont fait appel à Kaléidoscope pour établir le programme en concertation avec les différents acteurs présents dans les quartiers prioritaires du territoire. Sylvain Abrial de Kaléidoscope nous explique les étapes menant à ces assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole.
Alors Kaléidoscope, petite entreprise coopérative, une SCOP, comme son nom l'indique, basée à Saint-Étienne. 14 personnes qui la composent, qui surtout Auvergne-Rhône-Alpes, pas uniquement à Saint-Étienne. On intervient un peu de partout en France en accompagnement des politiques publiques avec des démarches de concertation et de co-construction, pour faire vite.
Alors ici, une intervention durant ces deux jours aux assises de la politique de la ville. Nous sommes les 7 et 8 novembre, mais ça a commencé bien avant votre travail autour de cette politique de la ville et de la préparation de ces assises. En quoi ça a consisté ?
Alors oui, c'est vrai que nous, on est un petit peu sur le sujet depuis presque cet été, quelque part, enfin la sortie de l'été. On a d'abord eu tout un travail de défrichage de tous les documents déjà existants sur le contrat de ville, donc de tous les éléments de diagnostic dans lesquels on s'est plongé pour arriver du coup à sortir les éléments saillants et les grands sujets. Et puis, on a eu une première phase de concertation sur les territoires. On s'est dit que les assises, c'était une étape parmi d'autres et qu'il fallait d'abord démarrer avec des ateliers territoriaux. Donc, il y en a eu trois. Il y en a eu un à Saint-Étienne, pour l'ensemble des quartiers politiques de la ville de Saint-Étienne. Il y en a eu un sur Londaine, à la Ricamari, pour les communes Chambon-Feugerolles, Firminy, Ricamari. Il y en a eu un dans la vallée du Gier, à Saint-Chamond, pour toutes les communes Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Paul-en-Jarret, Lormes. Voilà, donc trois ateliers où, dans lesquels on a réuni les acteurs, plutôt pour faire compléter le diagnostic, compléter le bilan du dernier contrat de ville, et se poser la question de quels étaient les éléments qui ressortent vraiment depuis leur territoire, les éléments de bilan qu'ils pouvaient ajouter avec le regard des acteurs territoriaux. Et en même temps, c'était aussi l'occasion de déjà commencer à travailler en vue des assises, puisque les personnes avec lesquelles on a travaillé dans ces ateliers, on leur a demandé de venir identifier les questions, les sujets qu'ils aimeraient qu'on voit aborder aux assises.
Alors comment on se positionne dans ce travail préparatif? Quel est l'endroit où l'on se met en tant que kaléidoscope face à ces acteurs de terrain?
Alors nous, l'endroit où on se met, c'est une posture qu'on adopte souvent, c'est celle qu'on appelle nos tiers facilitateurs, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour faire en sorte d'amener les bonnes méthodologies qui font que les acteurs, les habitants, les institutions puissent se parler, puissent exprimer des points de vue, partager, d'identifier où sont les points de controverse, où sont les points d'accord, et d'avancer et de produire ensemble. Donc nous, notre positionnement, il est à côté de tous ces acteurs-là pour venir proposer les bonnes méthodologies, et notre positionnement, il est aussi double, puisque c'est à la fois donc faciliter cette expression, le faire remonter, mais on a aussi clairement un mandat hein, sur cette prestation, qui est aussi de faire synthèse de tout ça. Et du coup, avec toutes ces synthèses et toutes ces contributions, de commencer à aider à formaliser, à écrire et à rédiger le contrat de ville. Donc c'est aussi une mission qui nous est confiée aujourd'hui.
Alors plusieurs espaces de discussion sont organisés. Quelles sont les thématiques qui sont ressorties?
Alors, on a eu une grande discussion sur justement ce sujet des thématiques. Je crois qu'on avait tous la volonté, Saint-Étienne Métropole, les services de l'État et nous, de ne pas s'enfermer trop dans des logiques thématiques trop restreintes. Donc, on a fait le choix d'avoir quatre grandes questions dans lesquelles on retrouverait plusieurs sujets. Donc, on a une première question qui est « Mon quartier agit ». Donc, « Mon quartier agit », c'est là qu'on va parler du dialogue, on va parler de la coopération, des partenariats, de la participation citoyenne. On a une deuxième grande question qui est « Mon quartier émancipe ». Donc, là-dedans, on va y retrouver des sujets comme l'éducation, l'accès aux droits, la culture, les sports et les loisirs. On va avoir une troisième question qui est « Mon quartier révèle », qui est plutôt autour des logiques d'insertion, d'emploi, de développement économique, d'économie sociale et solidaire. Et une dernière qui est « Mon quartier respire », qui est plutôt autour des questions de cadre de vie, de transition écologique et solidaire, de santé. Voilà. Donc, en essayant d'ouvrir sur chacune de ces questions avec trois petits points de suspension à chaque fois, puisque l'idée, c'est que les thématiques et les sujets seront aussi ceux dont les participants vont se saisir sous ces quatre grandes questions.
Lorsqu'il en revient sur le positionnement que vous avez d'expérience quand on agit de cette manière-là, de venir rencontrer, d'analyser, de regarder, de discuter, de faire partager, cette méthode-là, elle apporte quoi?
Elle apporte déjà le fait de pouvoir dialoguer et de pouvoir confronter des regards. On peut avoir des regards extrêmement différents entre un habitant, entre un acteur associatif, entre un acteur économique, entre une institution, entre un service de l'État, etc. Donc il est quand même vraiment important d'arriver à faire converger ces regards-là sur les sujets des quartiers et de la politique de la ville, et d'arriver à identifier là où il y a de la convergence, mais là où il y a aussi de la divergence. Donc la méthode, pour nous, elle apporte ça. C'est d'arriver à distinguer quels sont ces regards et ses points de vue, et à partir de ça, de construire ce qui peut faire commun et ce qui peut faire contrat, puisque vraiment la politique de la ville, ça se contractualise après entre tous les acteurs. Donc elle amène ça, et elle amène une autre chose, je pense aussi, c'est une mobilisation, un sentiment de co-responsabilité, de se dire la politique de la ville, ce n'est pas que les institutions, c'est nous tous, c'est à nous de la mettre en œuvre ensuite, il y a des moyens qui sont injectés, et c'est vraiment de la responsabilité des acteurs et des institutions ensemble de produire les actions, et du coup de faire que ce contrat de ville il soit au plus proche des territoires, parce qu'il y a un travail après qui va être fait à partir du contrat de ville métropolitain, de se dire maintenant c'est quoi la déclinaison concrète sur les différents territoires, donc les différents quartiers et les différentes communes. Donc la méthode, elle permet déjà d'embarquer de manière responsable l'ensemble des acteurs, de mon point de vue.
Ben, je vais mettre communication, aller vers, je vais mettre une parenthèse avec des mots.
Transat. Nouveau sujet.
Non, mais il y a juste un truc qu'on n'a pas du tout parlé
de l'alimentation.
C'est-à-dire bien manger et faire du sport. Enfin, c'est des pratiques qui sont bonnes pour la prévention aussi. Enfin, c'est
quelque chose. Développer la prévention et puis il peut y avoir
tout à fait la prévention.
Je suis Anne Brunner, je suis la directrice des études de l'Observatoire des inégalités et je co-dirige un rapport sur la pauvreté en France qui paraît tous les deux ans. C'est un organisme indépendant qui existe depuis 20 ans et qui dresse un état des lieux des inégalités dans tous les domaines. On ne travaille pas que sur la pauvreté et les revenus, on travaille aussi sur les inégalités en termes d'éducation, de travail, de conditions de vie, le logement, la santé, etc. On propose de diffuser des données le plus largement possible, compréhensibles, expliquées sur ces questions à travers un site internet, nos rapports, nos publications et aussi à travers des outils pédagogiques qui sont destinés notamment aux jeunes. On travaille principalement à partir de la statistique publique. En France, on a des organismes publics comme l'INSEE, les ministères, qui établissent des données sur l'ensemble des Français et qui les publient. Et notre travail, nous, c'est de les analyser sous l'angle des inégalités et puis aussi les rendre accessibles à tout public. Parce que ces données de la statistique publique, elles restent trop réservées aux experts. Elles sont peu lisibles, peu compréhensibles. Donc notre travail, c'est aussi d'y donner accès et de les expliquer pour que chacun puisse s'en saisir.
Alors concrètement, pour comprendre, quels sont les chiffres en France aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la pauvreté en France. Il y a 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois pour une personne seule, après le versement des prestations sociales. Ça, c'est le seuil de pauvreté qui se situe à la moitié du niveau de vie médian. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est pauvre quand on gagne moins de la moitié de ce que gagne le Français du milieu. Et ça concerne 5 millions de personnes en France.
Si l'on se réfère à l'événement de ces deux jours, les assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole, on s'intéresse aux quartiers dits prioritaires. Ceux-ci sont directement déterminés aux revenus selon les habitants. Comment l'Observatoire met ces chiffres en rapport à ces quartiers prioritaires ?
Les quartiers prioritaires, ils ont été définis par l'État comme des quartiers où on va constater en effet un taux de pauvreté plus élevé qu'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a une part plus grande, souvent plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans ces quartiers-là. Donc ce qu'on a vu ce matin, en effet, c'est que à Saint-Étienne, comme dans beaucoup de grandes métropoles françaises, on va trouver dans les quartiers où se trouve le logement social, des quartiers de centre-ville ou des quartiers de banlieue, mais qui se trouvent dans les grandes métropoles, une population qui est très nombreuse et qui est plus pauvre qu'ailleurs. C'est des quartiers où sont concentrées les difficultés sociales, du fait notamment d'un taux de chômage plus élevé. Il y a plus de jeunes, plus de familles monoparentales, toutes ces difficultés qui suscite la pauvreté, et bien on va les trouver concentrés dans les quartiers. Et d'une certaine manière, c'est d'abord lié au fait que c'est des quartiers où on va prévoir du logement social et donc offrir des possibilités. Heureusement qu'ils sont là, ces quartiers, et heureusement qu'il y a le logement social pour pouvoir se loger quand on rencontre ces difficultés.
Alors, vous élargissiez aussi le propos en notant que la pauvreté ne se situe pas en France seulement dans ces quartiers dits prioritaires et qu'il y a aussi une distribution, malheureusement, de la pauvreté sur tous les territoires.
Et oui, les quartiers prioritaires, c'est des quartiers qui ont été définis, identifiés par l'État, où il y a des besoins sociaux plus importants qu'ailleurs, mais ils recoupent une toute petite partie de la population en France. Même si il y a trois fois plus de pauvres là qu'ailleurs, les pauvres en France, pour trois quarts d'entre eux, ils habitent ailleurs que dans les quartiers prioritaires. Parce que la population française, elle est partout, et que des personnes pauvres, on va en trouver dans tous les quartiers de Saint-Étienne, dans le rural, et trois personnes sur quatre qui vivent sous seuil de pauvreté ne vivent pas dans les quartiers prioritaires.
Votre structure, c'est l'Observatoire des inégalités et de la pauvreté. Si l'on parle d'inégalité, qu'est-ce que l'on considère? L'héritage social, Expliquez-nous.
Des inégalités, on va les constater dans tous les domaines. Hein. Je vous disais, le travail, l'éducation, le logement, la santé. Donc il est très difficile de répondre pour l'ensemble de ces questions d'un trait, mais il me semble que ce qui fracture particulièrement la société française dans notre pays, c'est le diplôme. Parce qu'on va constater des difficultés d'insertion de plus en plus grandes pour les jeunes les moins diplômés, et que dans notre pays, il y a particulièrement peu de chances d'accéder à une formation. Une fois qu'on est sorti du système scolaire, on a une étiquette collée sur le front avec le niveau de diplôme. S'il est insuffisant, on va rencontrer toutes les difficultés d'insertion qui risquent de conduire à la pauvreté. C'est pas une règle générale, bien sûr. Pour une partie de ces personnes sorties trop tôt du système scolaire, eh bien, le risque est plus important. Et c'est d'autant plus injuste qu'en fait, ça reste très déterminé par le milieu social d'où on vient. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction de génération en génération des inégalités sociales qui est liée au fait que l'école, elle n'arrive pas à contrer les inégalités sociales qu'on rencontre en naissant dans un milieu, dans une famille ou dans l'autre. Et là, c'est un vaste sujet de politique publique à mener, mieux qu'aujourd'hui on ne le fait en France, de donner des chances à tous de façon beaucoup plus juste et de réussir à contrer ces inégalités sociales, ce que ne fait pas aujourd'hui notre système scolaire qui fonctionne plutôt comme une grande machine à trier sur les résultats scolaires, mais en réalité à trier sur l'appartenance sociale des élèves.
Alors, si l'on souhaite consulter vos travaux, où faut-il aller ?
On a un site internet qui est facile à trouver. C'est le site internet de l'Observatoire des inégalités. Et puis, on peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent quasiment sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube avec quelques vidéos.
On a cette habitude de leur dire que je lui avais proposé de faire des permanences, de venir directement sur place, etc. Parce que c'est vrai que nous, c'est pas notre métier, on est obligé de les orienter. Et c'est vrai que, en fait, ils passent pas la porte. Si tu les accompagnes pas, ils passent pas la porte.
Donc c'est l'aller vers quoi.
C'est faire de l'accompagnement, peut-être vraiment, j'allais dire, au premier sens du terme, et vraiment les accompagner.
Les ateliers durant ces assises de la politique de la ville s'appuyaient sur quatre thèmes au choix: mon quartier agit, mon quartier émancipe, mon quartier respire et mon quartier révèle. Rencontre sur ce dernier thème avec des participants.
L'objectif, c'est de réfléchir collectivement sur l'enjeu de l'emploi là, sur notre atelier, faire émerger des idées pour qu'on construise ce contrat de ville.
Alors, je pense que le plus grand outil sur lequel on a pu vraiment s'appuyer, ça reste nous, entre professionnels, parce que c'est vrai qu'on est sur des missions différentes, sur des quartiers différents, et c'est vrai que le plus bel outil qu'on a pu avoir, c'est vraiment les échanges de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, sur qu'est-ce qu'ils ont remarqué, eux, de leur côté, qu'est-ce qu'on a remarqué, eux, et c'est avec tout ça que vraiment on a pu, en fait, trouver des enjeux, trouver des pistes de travail tous ensemble.
Moi, je pense qu'on est vraiment sur l'expérience de chacun. Et l'échange de ces expériences nous montre qu'on a des accroches communes qu'on souhaite faire évoluer. Et ça permet de construire, en fait. C'est de mettre en commun toutes nos visions qui permet de construire quelque chose qui soit le plus global possible.
Alors, si l'on reste dans le concret du déroulé de ces ateliers-là, depuis entre ces deux jours, comment on a appréhendé cette question-là, comment on la développe, et on arrive bientôt à la finalisation de toutes ces réflexions-là. Qu'est-ce qui a été noté? Quelle était la méthodologie employée?
Je trouve que l'intitulé de chacun de nos ateliers nous laisse un champ de liberté assez important pour exprimer chacun ce que l'on peut observer, ce que l'on souhaite. Et on ne se sent pas dans un entonnoir et où on nous dirige déjà vers des solutions toutes faites. Ça nous laisse vraiment place à la créativité et à la projection.
Alors, sur les premières idées qui émergent, quelles sont-elles dans ce grand titre « Mon quartier révèle » ?
Alors, moi, j'ai travaillé sur l'aspect choisir son activité. Et l'objectif, ça serait de pouvoir mettre en place directement dans les quartiers des pôles liés à l'économie sociale et solidaire qui puissent permettre à chacun de trouver sa place et surtout d'investir les habitants dans ces pôles présents dans les quartiers, qui soient au même titre, qui seraient présents au même titre que tous les partenaires investis dans l'action. Réunir chacun toutes nos idées. C'est là qu'on arrive à se projeter sur le long terme et sur des choses qui, en effet, ne seront pas mises en place immédiatement parce qu'elles vont demander des moyens humains, financiers, de la construction, des échanges entre les partenaires avec les habitants. C'est tout ça qui fait qu'on peut se projeter sur le long terme.
Nous arrivons au terme de ces deux jours de ces assises de la politique de la ville. Après ces ateliers-là et toutes les idées qui en ressortent pour l'élaboration d'un nouveau contrat de ville, nous rencontrons Sylvain Abrial de Kaleidoscope qui nous parle à chaud des idées et des mots ressortis de ces assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole.
Je pense qu'il y a, un mot qui, comme ça, qui me vient tout de suite, c'est le mot transversalité. C'est en fait justement d'ouvrir et de sortir des thématiques habituelles et des spécificités des uns et des autres. Les ambitions qui ont été proposées, mais même aussi les chantiers, on voit qu'ils se répondent vraiment beaucoup entre eux, entre elles. Quand on va parler d'éducation, on va aussi parler de culture. Quand on va parler d'éducation, on va parler d'éducation populaire et d'éducation nationale. Quand on va parler de transition, on va parler de cadre de vie. Enfin voilà. Donc moi, c'est ce qui ressort, je trouve vraiment beaucoup, de casser un peu les silos thématiques et donc des ambitions qui sont toutes très connectées les unes aux autres. Et des ambitions ambitieuses, ça aussi, c'est ce que j'ai envie de dire, quand je les relis, je les trouve... Enfin, on va voir maintenant lesquelles, comment ces ambitions-là vont vraiment prendre place dans le contrat de ville. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'elles soient presque littéralement prises comme ça dans le contrat, parce qu'elles donnent un chemin qui est extrêmement ambitieux, il me semble.
Alors rappelons que ce sont deux jours d'ateliers, de réflexion, et tous les participants se sont emparés des outils qui étaient à leur disposition. Ces ateliers-là, avec vos collègues à Kaleidoscope, comment vous avez perçu, toujours à chaud, hein, mais cette participation-là aussi de ces professionnels, de ces habitants, de ces institutions ?
Extrêmement engagé. On a eu vraiment toujours en face de nous des personnes qui vraiment venaient dans l'idée de pas seulement échanger, discuter, mais vraiment dans l'idée de produire ensemble, de faire avancer une politique publique qui est commune. Et j'ai vraiment à chaque fois senti cette envie forte d'y aller, d'essayer d'être précis dans les termes, de rester dans le dialogue, de faire exister les désaccords aussi, et puis en même temps de chercher toujours le commun, la convergence vers quelque chose qui pourrait servir vraiment d'action collective et qui pourrait leur servir par la suite, quoi. Donc on sent vraiment qu'il y a une sorte de responsabilité collective. Moi, j'ai vraiment senti ça dans les ateliers et je pense que c'est partagé par nos collègues. C'est un contrat qui nous concerne tous et qu'on doit tous porter quelque part, qu'on ne peut pas juste attendre des institutions.
Pour terminer, ces ateliers-là et ces assises de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole ont été préparés en amont. Vous avez préparé, vous êtes allé à la rencontre de ces acteurs dans les quartiers prioritaires. Est-ce que la continuité se fait entre ces rencontres-là et ces assises ?
Nous, ce qu'on a surtout fait, hein, pour être très honnête, c'est ces ateliers territoriaux qui étaient en amont, donc sur les trois grands territoires, le JIE, Londaine et Saint-Étienne. Donc là, ça nous a permis de rencontrer un peu plus proche les acteurs, en effet, de ces quartiers et les habitants. Donc là, les assises, c'était une étape supplémentaire. Maintenant, la continuité, ça va en effet d'arriver à traduire tout ce qui a été produit ici et de travailler plus en finesse avec notamment les signataires du contrat de ville, et puis ensuite de délivrer un document qui soit un document métropolitain, mais on a aussi envie de laisser un petit kit pour que les communes et les territoires puissent décliner ce contrat de ville tout en continuant cette démarche très participative de concertation. Donc nous, on va aussi essayer de proposer des outils, des méthodes que nous on emploie, qu'on employait, qui ne nous appartiennent pas, et pour que la continuité, ce ne soit pas nous qui l'assurions, parce que nous on est éphémère dans cette histoire-là, mais que ce soit vraiment les territoires qui s'emparent de tout ça et qui continuent à avoir une démarche participative jusqu'au bout.
Parole de citoyen, radio citoyenne est financée dans le cadre de la politique de la ville par la préfecture de la Loire, Saint-Étienne Métropole et la ville de Firminy. Parole de citoyen, radio citoyenne, portée et réalisée par Radio Ondaine en collaboration avec Radio Dio.